recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Les Mamelouks turcs et circassiens, ces chefs d'un état militaire qui font un peu figure de parvenus, eurent à n'en pas douter le goût et le sens du luxe. Au Caire, le souvenir des Mamelouks domine tout.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'émission de ce matin, consacrée aux Mamelouks, est née de la rencontre de deux livres importants qui ont été publiés récemment. Le premier est signé de Jean-Pierre Filiu, que j'ai plusieurs fois convié à ce micro, et il offre une histoire de la contre-révolution militaire après le printemps arabe avorté du début des années 2010. Il s'intitule « Généraux, gangsters et djihadistes ». Il développe, chemin faisant, un rapprochement original entre les évolutions actuelles et l'époque des Mamelouks qui régnèrent sur la Syrie et sur l'Égypte entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XVIe. Des soldats esclaves venus d'ailleurs et qui gravirent en nombre la hiérarchie militaire dans leur pays d'adoption jusqu'à y assurer longuement leur emprise. Le second ouvrage est de la plume de Julien Loiseau qui est mon invité ce matin. Un ouvrage consacré tout entier à l'histoire même des Mamelouks pour en éclairer la spécificité avec les ressorts de leur puissance éclatante et les formes de leur domination. Celle-ci s'est incarnée dans la personne de 50 sultans successifs, dont l'élévation au trône a généralement été due non pas à un principe dynastique, mais à de féroces chocs d'ambition pour la conquête du pouvoir, au cœur d'une prestigieuse civilisation guerrière. Julien Loiseau est professeur à l'université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. Il a été directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Sa science va nous permettre, à partir de l'évocation d'un monde méconnu en Occident, de nous interroger sur la validité de cette concordance des temps à 800 ans de distance. Et pour commencer, un extrait d'une conférence radiophonique du grand islamologue que fut Louis Massignon en 1950.
Les Mamelouks évoquent, pour ceux qui ont un peu entendu parler de l'histoire du Moyen-Âge, une période très étrange, où ce sont des esclaves qui étaient des maîtres, des gens qu'on achetait sur le marché, des espèces de chevaliers en puissance, si je puis dire, car à peine achetés pour leur qualité physique sur des marchés lointains du côté de la Caspienne, dans le pays qui était soumis à ce moment-là à la Horde d'or. On les amenait dans des casernes sélectionnées, privilégiées, au Caire, et très vite, c'était parmi eux que le souverain se choisissait non seulement ses grands capitaines, mais généralement son successeur. Comment se fait-il qu'un grand pays comme l'Égypte, dont évidemment les richesses exceptionnelles ont fait la convoitise des autres pays, comment se fait-il qu'à un moment d'indépendance, il ait choisi de prendre comme maître des esclaves? C'est sous la pression conjuguée de deux dangers militaires pressants, les croisés qui venaient de l'ouest et les Mongols encore païens qui venaient du fond de l'Asie à l'est, que l'Égypte, qui était à ce moment-là le dernier réduit de l'islam, l'endroit où confluaient tous les réfugiés poursuivis depuis l'Andalousie jusqu'à Constantinople, c'est qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait se choisir une sélection de défenseurs, non pas par des moyens techniques nouveaux, ce seront des arbalétriers surtout. Et alors que la technique des armes se développera de plus en plus en Occident, C'est à ce moment-là que, tout au moins par la force physique et par la sélection de qualités de duelliste, si je puis dire, et d'arbalétrier qu'avaient les Mamelouks, que l'État égyptien forma le dernier réduit de la défense musulmane. Et en même temps, permis l'éclosion d'un certain nombre d'œuvres d'art fort belles, car vous savez que le Caire a eu à ce moment-là une série de fort belles mosquées. La plus belle est Sultan Hassan, dont la très haute coupole est d'un si puissant effet religieux tout près de la citadelle de Saladin.
Julien Loiseau, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Le ton est d'une causerie radiophonique de l'époque, 1950, je le disais. L'auteur est très prestigieux, c'est Louis Massignon. C'est encore un maître pour les islamologues dont vous êtes.
Oui, c'est encore un des très grands noms de l'islamologie française. Louis Massignon avait une connaissance prodigieuse des textes arabes et tout particulièrement de l'histoire de l'Égypte, pays qu'il a longuement et intimement connu, parcouru tout au long de sa vie.
Il a entretenu d'ailleurs et nourri les relations harmonieuse, d'enrichissement mutuel entre le monde de l'islam et le monde catholique, puisqu'il était un converti fameux comme tel.
Oui, il a également beaucoup réfléchi aux conditions de possibilité du rapprochement et du dialogue islamo-chrétien.
Alors, ce résumé qu'il propose de la question que nous allons traiter aujourd'hui, celle des Mamelouks, en comparaison, pour finir avec la période actuelle, ce qu'il en dit, c'est-à-dire que c'est une expérience politique généris, infiniment originale, celle des Mamelouks. Votre livre, Julien Loiseau, ne le contredit pas. Est-ce que les composantes de cette expérience telle qu'il les évoque vous paraissent demeurer à cette distance historiographique, en gros valide?
Oui, je crois que Louis Massignon, dans cette causerie, dresse parfaitement le décor de l'histoire des Mamelouks, c'est-à-dire à la fois l'histoire très longue d'une institution, celle de l'esclavage militaire, et puis le tableau de ces circonstances exceptionnelles qui ont conduit ces esclaves soldats non seulement à défendre l'Égypte, mais à prendre le pouvoir à leur compte au milieu du XIIIe siècle.
Alors fixons à la fois la chronologie de cette domination des Mamelouks et peut-être la géographie par rapport à l'islam conquérant, mais qui connaît dans ces moments-là une période difficile.
Oui, l'histoire des Mamelouks prend place au fond dans les régions les plus centrales de l'ancien empire arabe. L'Égypte tout d'abord, dont il s'empare au milieu du XIIIe siècle, en 1250. Puis la Syrie, mais la Syrie au sens large, le Bilad al-Sham des géographes arabes, c'est-à-dire aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, l'ensemble de cette région, jusqu'à l'Euphrate et jusqu'au contrefort de l'Anatolie. Voilà le cœur du domaine Mamelouk, dont l'influence s'étendait plus loin encore, puisque ils exerçaient une protection et une forme de patronage sur le pèlerinage à la Mecque et par conséquent sur les lieux saints de l'islam au Hijaz, donc la Mecque et Médine.
Donc il s'agit avec ces Mamelouks de milices d'esclaves affranchis. Ce qui est original dans votre livre, vous nous le montrez comme tel, c'est qu'ils ont, esclaves d'abord, accéder en somme au pouvoir. L'esclavage, c'est une pratique qui domine pratiquement toute l'histoire de l'humanité jusque dans les années finales du 19e siècle. Il y a un très beau film qui va être montré sur Arte sur les routes de l'esclavage en quatre moments prochainement, je le signale. Mais voilà un cas où les esclaves montent toute la hiérarchie de la société d'une façon qu'il faut évidemment expliquer.
Oui, c'est à proprement parler une expérience inouïe dans l'histoire de l'islam, même si la présence au plus près des souverains de ces gardes rapprochés d'esclaves soldats affranchis au terme de leur formation était traditionnelle depuis plusieurs siècles dans les cours islamiques. Mais il y a quelque chose effectivement d'inouï dans la prise de pouvoir des Mamelouks, qui procède d'ailleurs d'un véritable coup d'état en 1250, d'un assassinat politique, l'assassinat de l'héritier du trône d'Égypte qui revenait en principe à un descendant de Saladin.
Les assassinats ne manquent pas dans tous ces siècles de sang.
C'est une histoire assez mouvementée, effectivement. C'est tout le contraste de cette histoire qui est extrêmement instable sur le plan intérieur et qui pourtant donne naissance à un État d'une très très grande stabilité sur ses frontières extérieures pendant plus de 2 siècles et demi.
Je me disais en vous lisant que l'assassinat de Sadat qui a succédé à Nasser, assassinat évidemment retentissant par ses propres troupes, pouvait se situer dans la longue durée de ses précédents.
Oui, c'est vrai qu'il y a une, il y a hélas dans les pays de culture politique islamique une longue tradition de la violence politique, même si elle est à éclipse et même si dans l'histoire même des Mamelouks elle n'est en aucun cas permanente ni nécessairement structurante. Néanmoins, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en un peu plus de 2 siècles et demi, il y a quand même 50 souverains qui se succèdent, ce qui représente un rythme de succession très très élevé en comparaison des régimes contemporains des différentes dynasties, y compris de la région.
Oui, à comparer avec les 9 rois seulement qui se sont succédés pour la même période sur le trône d'Angleterre et 16, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, sur le trône de France.
Oui, c'est tout à fait étonnant et le contraste peut également être fait avec les régimes islamiques de la même époque. Si on compare par exemple avec les souverains du Yémen, les Rassoulides, qui ne sont que 13 à se succéder sur la même période de temps que les 50 sultans du Caire.
Il me semble qu'on ne pourrait pas comprendre le phénomène mamelouk si on ne le replaçait pas dans la longue durée de la conquête islamique depuis Mahomet. Qui a beaucoup évolué, non ?
Vous avez entièrement raison. L'empire de l'islam est le fruit des conquêtes menées par les Arabes au 7e, 8e siècle, entre les années 630 et les années 750, qui les ont conduits aux deux extrémités du vieux monde, de l'Atlantique aux rives de l'Indus.
Formidable expansion dont on a peu d'équivalent dans l'histoire de l'humanité.
Donc je pense qu'elle est unique, effectivement, non seulement par son ampleur, mais par ses conséquences extrêmement durables. Le grand changement, il intervient 2 siècles plus tard, lorsque ces armées de la conquête, qui n'étaient pas seulement arabes d'ailleurs, au Maghreb et dans la péninsule ibérique, ce sont beaucoup des berbères qui ont contribué à la conquête islamique. Ces armées des conquêtes sont progressivement écartées, non seulement des cercles du pouvoir, mais écartées du bénéfice de l'impôt au profit d'une armée professionnelle.
Mais pourquoi sont-elles écartées, Julien Loiseau ?
Parce qu'elles ne répondent plus aux menaces du temps et en particulier à l'adversité que représente alors l'Empire byzantin pour l'Empire islamique. Il faut une armée professionnelle capable d'intervenir sur le front byzantin et cette armée, on la recrute à la fois parmi des populations libres, mais aussi à partir de la fin du 9e siècle par le biais de l'esclavage.
Et cela correspond à une période de l'histoire de l'islam qui est une période très difficile où on a même pu croire un instant que cette conquête allait refluer.
Oui, s'il n'y avait eu dans l'histoire de l'islam l'entrée des Turcs et à la fois comme esclaves puis comme sujets libres convertis à l'islam, les destinées de l'islam dans la longue histoire auraient été toutes différentes.
Certains parfois confondent Mamelouk et Janissaire. Aidez-nous, Julien Loiseau, à clarifier nos idées à ce propos.
Alors Mamelouk et Janissaire s'inscrivent dans la même tradition de l'esclavage militaire qui consistait pour les souverains, les premiers à le faire sont les califes de Bagdad à la fin du 9e siècle, qui consistait à recruter sur les marchés aux esclaves les éléments de leur garde personnelle rapprochée, une garde prétorienne en quelque sorte, sélectionnée sur la base de critères ethniques et sur la base des vertus militaires prêtées au peuple d'origine de ces esclaves.
C'est-à-dire qu'ils étaient originaires du Caucase, des Circassiens, ou originaires des steppes asiatiques, des steppes mongoles.
Alors à l'époque des califes abbassides, à la fin du 9e siècle, ils viennent principalement de la grande steppe eurasiatique, d'Asie centrale. Plus tard, à l'époque mamelouk, ils viendront davantage des plaines du sud de la Russie, de l'actuelle Ukraine, la région où vivaient les populations turques Kipchak, puis du Caucase, puisqu'à partir de la fin du 14e siècle et surtout au 15e siècle, ce sont des mamelouks circassiens, tcherkesses, qui dominent pour l'essentiel le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie.
Qui ne parlaient pas naturellement l'arabe et qui n'étaient pas non plus religieux, qui n'étaient pas musulmans.
Alors, par définition, selon les prescriptions de la loi islamique, les esclaves doivent venir d'au-delà des frontières du monde de l'islam, doivent être par définition non-musulmans.
Donc on n'a pas le droit de faire des esclaves de musulmans.
Ni de musulmans, ni d'ailleurs des non-musulmans protégés par la loi islamique, tels les chrétiens et les juifs qui vivaient de manière ordinaire dans les pays d'islam. Les esclaves viennent par conséquent d'au-delà des frontières du monde de l'islam et doivent être non-musulmans.
Les chrétiens et juifs étaient quand même dans une position inférieure.
Tout à fait, mais qui en principe les protégeait de l'esclavage.
Alors, les janissaires, par rapport aux Mamelouks?
Alors les janissaires, au fond, c'est un peu la même chose, sauf que le bassin de recrutement de ces esclaves est plus près, au plus proche du sultanat ottoman, puisque c'est dans les Balkans chrétiens que les Ottomans recrutaient les futurs janissaires par la pratique de ce qu'on appelait la récolte, le defshirme, la récolte des enfants dans les villages, chaque famille ayant plusieurs garçons devant donner pour les troupes, pour les nouvelles troupes, puisque c'est cela que signifie le mot janissaire, les nouvelles troupes du sultanat ottoman devaient donner un garçon.
Donc sinistre séparation et en même temps chance d'un essor neuf et inattendu pour ces destins individuels.
Chance, opportunité d'une promotion sociale tout à fait stupéfiante, puisque à travers la hiérarchie militaire, ils pouvaient accéder aux plus hautes fonctions de l'État ottoman, à une exception près, c'est que les janissaires n'accédaient pas au trône. C'est la grande différence avec les Mamelouks d'Égypte et de Syrie, où les Mamelouks eux-mêmes exerçaient le pouvoir souverain. Les janissaires n'accédaient pas au trône, et plus encore, les janissaires restaient esclaves jusqu'à la fin de leur jour. C'est aussi une différence importante avec les Mamelouks.
Alors les Mamelouks, eux, effectivement, pouvaient être affranchis, ils l'étaient, c'était leur destin naturel. Ils appartenaient un peu à une famille, leur maître constituait autour d'eux une sorte d'ensemble humain favorisé, et pour les favoris, c'était l'occasion d'une promotion rare.
Alors c'est une véritable famille de substitution qui s'organise pour ces enfants qui sont arrachés à leur famille, arrachés à leur passé, coupés hein, de leur pays d'origine et de leurs liens familiaux, et qui vont trouver à un âge tendre, hein, avant la puberté, parfois même à un âge vraiment tendre, vont trouver dans la maison de leur maître une famille de substitution, évidemment dans des conditions de vie parfois très très dures, mais néanmoins une famille de substitution, à la fois parce que le maître se comporte à l'égard de ses mamelouks ou devait se comporter à l'égard de ses mamelouks comme un père à l'égard de ses enfants, un père nourricier, mais aussi une famille de substitution puisque les mamelouks eux-mêmes étaient frères en esclavage et naissait entre eux une solidarité qui ne se démentait pas pendant le reste de leur carrière et qui se prolongeait bien au-delà de leur affranchissement.
Il fallait qu'ils soient déjà assez grands pour qu'on puisse juger de leur talent, mais assez jeunes pour qu'ils puissent être modelés.
Oui, ils devaient suivre une formation très exigeante et très longue, et formation qui est très intéressante à étudier dans la mesure où elle n'est pas seulement militaire. Et bien évidemment, ces jeunes esclaves étaient recrutés pour faire d'eux des cavaliers d'exception, capables de combattre à cheval, en particulier de tirer à l'arc ou de manier la lance lancée sur un cheval. Mais ils recevaient également, et c'est important, cela faisait partie de leur cursus, ils recevaient également une éducation religieuse, mais également tout simplement une éducation, une formation à la lecture et à l'écriture à travers l'étude du texte coranique. Mais certains mamelouks parvenaient à un degré tout à fait respectable de maîtrise de la culture arabe et des sciences religieuses.
La composante militaire, si j'ai bien compris, restait essentiel. Le monde religieux, même s'ils connaissaient bien sûr l'islam de près, n'était pas de leur fait.
Non, il y a effectivement dans ces sociétés islamiques médiévales, et tout particulièrement au temps des Mamelouks, un partage des tâches dans la société qui est pratiquement un partage ethnique des tâches. C'est-à-dire que la charge de défendre la civilisation face à ses ennemis revient des esclaves blancs recrutés dans les pays du Nord, réputés pour la dureté de leurs conditions et donc pour les vertus militaires de leurs enfants, alors que les sciences religieuses revenaient presque ethniquement aux Arabes et aux Persans, maîtres de la langue, maîtres des textes fondateurs de l'islam et maîtres en particulier du droit et des sciences juridiques.
Mais alors comment s'organise l'équilibre entre ces nouveaux venus et les habitants antérieurs qui se trouvent subordonnés à ces esclaves affranchis et désormais tout puissants? Gabriel Martinez Gros, qui est un grand spécialiste de l'islam, a développé une théorie sur les relations qu'entretiennent les habitants, parfois un peu amollis par la vie quotidienne, et d'autre part l'arrivée des forces extérieures. Est-ce que cela s'applique? Ibn Khaldoun avait fait la théorie de tout cela.
Oui, tout à fait. Gabriel Martinez-Gros a magistralement expliqué, mis en lumière les tenants et les aboutissants de la pensée d'Ibn Khaldoun, ce grand penseur de langue arabe du XIVe siècle, qui lui-même a bien connu les Mamelouks, puisqu'il a passé le dernier tiers de sa vie au Caire et qu'il y est mort en 1406. Donc il est, je dirais, un témoin de premier ordre de ce régime. D'une certaine manière, pour les sujets égyptiens, les Mamelouks et leur domination s'inscrivaient dans une longue tradition de la domination d'un groupe étranger au pays. Ça faisait très longtemps que les Égyptiens eux-mêmes avaient renoncé à toute forme de pouvoir sur la vallée du Nil. Le pouvoir est exercé par des étrangers de manière presque coutumière. Néanmoins, l'avènement des Mamelouks eux-mêmes, l'avènement de ces anciens esclaves sur le trône, constitue un événement inouï qui entraîne une forme de réprobation de la part en particulier des milieux religieux égyptiens. Ou du moins, aurait pu entraîner une réaction de réprobation durable s'il n'y avait eu la menace mongole, la menace des conquêtes mongoles auxquelles les Mamelouks font face victorieusement. Et c'est fondamentalement là-dessus que se fonde leur légitimité à gouverner l'Égypte, c'est qu'ils ont tout simplement sauvé l'Égypte des conquêtes mongoles en 1260.
Et des conquêtes avortées des croisés aussi ?
Oui, tout à fait. Ce sont des acteurs essentiels de la fin de l'échec des dernières croisades et puis de la fin de la présence latine en Orient. Louis IX, le roi de France qui conduit la septième croisade, se heurte à la résistance des Mamelouks dans le delta du Nil. Et Joinville, qui accompagne Louis IX, raconte le coup d'État lui-même qui donne aux Mamelouks l'accès au pouvoir, l'assassinat du prince héritier égyptien, est décrit par Joinville.
Louis IX, c'est celui qu'on appelle souvent Saint-Louis.
Saint-Louis, tout à fait. Et les Mamelouks, au-delà de la défaite de Saint-Louis en 1250 à la bataille de la Mansoura dans le delta du Nil...
Qui est prisonnier, du coup.
Prisonnier des Mamelouks pendant plusieurs semaines avant d'être racheté, avant d'être que une rançon soit versée pour sa libération. Mais au-delà même de l'événement de la bataille de Mansoura, les Mamelouks ont joué un rôle déterminant dans l'éviction finale de la présence latine en Orient pendant les quatre décennies qui suivent jusqu'à la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291 par les Mamelouks et qui met un terme définitif à la présence latine au Levant.
Ce qui frappe, c'est qu'il ne s'agit pas de succession dynastique, je le disais, et que par conséquent, il y a une sorte de principe darwinien, peut-on dire, qui fait que certains arrivent sur le trône, mais que lorsqu'ils ont un fils, on le garde provisoirement pour l'intérim, avant qu'un autre sultan ne surgisse.
Oui, c'est sans doute le plus étonnant et le plus, j'irais presque le plus choquant de notre point de vue, de notre culture politique. Il y avait en fait une tension dans cette société militaire mamelouque entre deux aspirations. Une aspiration collective des mamelouks eux-mêmes à conserver tous les privilèges du pouvoir au nom de leur cursus radicalement différent, naissant par l'esclavage et par leur origine étrangère et leur formation militaire. Et puis en même temps, l'appétit de chaque sultan à transmettre à ses propres enfants son trône, appétit le plus souvent déçu, puisque à une exception près, qui est la dynastie fondée par le sultan mamelouk Kalaoun à la fin du XIIIe siècle. Petite dynastie, et qui a très vite perdu la réalité du pouvoir. Effectivement, le sultan est choisi parmi les grands officiers de l'armée, au terme de quelques jours ou quelques semaines de flottement, le temps que se dégagent au fond les rapports de force entre les principaux candidats au sultanat.
Nous verrons tout à l'heure, lorsque nous envisagerons les rapprochements avec l'Égypte contemporaine, qu'à cet égard, la ressemblance peut frapper.
Il y a effectivement une concordance intéressante à établir entre les Mamelouks et la domination des régimes militaires dans le monde arabe depuis le milieu du XXe siècle.
Alors faites surgir, si vous voulez bien, certains de ces Mamelouks parvenus au sommet. J'ai été frappé par la personnalité de Baybars, qui est un chef durable, 1260-1277, et qui meurt finalement pour avoir bu trop de cette boisson fermentée, qui n'était pas vraiment de l'alcool, puisqu'il était déjà interdit. Une boisson fermentée dont il était trop gourmand.
Oui, c'est l'une des interprétations de la mort de Baybars en 1277, soit une indigestion de koumis, qui est une boisson faite à partir de lait de jument fermenté, qu'affectionnaient beaucoup les Mamelouks. C'est une forme de consommation, c'était un signe de distinction du groupe Mamelouk, cette consommation de lait de jument fermenté, au même titre d'ailleurs que la consommation de la viande de cheval, et également la consommation d'alcool. Les Mamelouks passaient pour d'invétérés ivrognes auprès de leurs sujets. C'était en tout cas l'un des l'un des traits de la critique à leur encontre.
L'alcool n'était pas interdit à l'époque ?
Il l'est, avec quelques petites nuances, parce que l'école juridique favorite des Mamelouks, le hanéfisme, autorise les boissons alcoolisées jusqu'à quelques 3 ou 4 degrés d'alcool. Et puis, les lois sont faites pour être transgressées, et les Mamelouks transgressaient allègrement la loi islamique.
Alors, quel type de civilisation ont-ils apporté ? Quelle relation, en particulier avec l'architecture ? Car, avec le recul, c'est cela qui reste le plus lisible, et le Caire est marqué encore par la permanence de magnifiques réalisations. Je vais vous faire entendre une archive qui nous raconte la visite de la mosquée et de la madrassa du sultan Hassan Mamelouk au Caire. C'est Abdelwahad Medeb, que nous aimions beaucoup ici à France Culture, qui a disparu prématurément et qui est notre guide dans Culture d'Islam sur France Culture le 9 mai 2010.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
Nous sommes dans la mosquée de Sultan Hassan, enfin la madrassa de Sultan Hassan. Et cette madrassa, c'est un très grand complexe qui contient une école de médecine dont il y a encore les vestiges, et puis l'hôpital. Donc là, nous sommes dans la cour, nous sommes assis au bord d'un des iwans, l'iwan qui est dévolu à l'école malikite. Et je dois dire qu'à partir de la cour, l'espace paraît beaucoup plus monumental. C'est là où on voit que nous avons affaire à cette voûte qui se veut. Elle était dans le programme même du commanditaire de Sultan Hassan à son architecte. Faites-moi le plus haut iwan possible. Je veux un iwan plus haut que les iwans qui sont à l'origine de l'idée même d'iwan, c'est-à-dire que les iwans persans. Et selon Makrizi, nous avons ici en effet un iwan de 27 mètres de haut qui serait supérieur de quelques coudées de l'iwan de Ctésiphon, qui avait donc servi de modèle aux musulmans.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Iwan, expliquez-nous, Julien Loiseau.
Alors un iwan, c'est une des formes essentielles de l'architecture islamique. C'est une grande baie qui ouvre sur une cour. Et depuis le XIVe siècle, les fondations pieuses, mosquées et madrassas pour l'enseignement du droit et des sciences religieuses s'organisent au Caire autour d'une cour à quatre iwans, chaque iwan ouvrant sur la cour centrale et chaque iwan étant dévolu à des cours et en particulier aux cours de droit dans l'une des quatre écoles de l'islam sunnite.
Il y a un autre aspect qui frappe avec le recul, c'est l'ensemble des costumes extrêmement somptueux dès que l'on monte dans la hiérarchie et qui dessinent précisément cette hiérarchie aux yeux de tous.
Oui, les Mamelouks se reconnaissaient entre tous au sein de la population du Caire. Alors, costumes particulièrement fastueux, colorés, toujours doublés de fourrure malgré la chaleur égyptienne. Les Mamelouks étaient appréciaient particulièrement la fourrure comme ornement de leur robe. De fait, les Mamelouks sont les seuls à porter un certain nombre d'attributs qui les distinguent au sein de la société urbaine. Ce sont les seuls à porter les armes. Ce sont les seuls, en principe, à monter à cheval. Le cheval fait partie de l'habit militaire qui distingue les Mamelouks du reste de la population. Enfin, les Mamelouks tcherkesses, circassiens, qui s'imposent à la tête du régime au XVe siècle, portaient volontiers un bonnet, un très haut bonnet en poil de chèvre, teint en rouge, bonnet en poil de chèvre qui évidemment semblait bien étrange aux habitants de la Syrie et de l'Égypte de cette époque, et qui a d'ailleurs beaucoup marqué les contemporains.
On les voit arriver du côté de Venise. Il y a de belles reproductions dans votre livre, Julien Loiseau, la peinture vénitienne du Quattrocento, qui montre, je pense en particulier, cette prédication de Saint-Marc à Alexandrie au début du XVIe siècle. C'est un tableau de Gentile Giovanni Bellini qui montre trois émirs. Les émirs sont des sortes de préfets.
Sont les officiers de l'armée mamelouk.
Qui sont revêtus d'une robe d'apparat et de ce magnifique bonnet circassien rouge.
Oui, la peinture vénitienne utilisait la connaissance qu'avaient les Vénitiens du Proche-Orient, qui étaient des alliés importants du sultanat mamelouk, en particulier pour le commerce des épices, qui amenait des marchands vénitiens à s'installer durablement en Syrie, tout particulièrement. Les Vénitiens avaient une connaissance très intime du sultanat mamelouk et représentaient volontiers l'Orient sur les tableaux religieux, un Orient très contemporain, peuplé en effet d'officiers mamelouks avec leurs costumes si reconnaissables.
Quelle était la condition féminine chez les mamelouks ?
Alors il faut se représenter une société où la polygamie est bien évidemment possible, et d'ailleurs dans les hautes sphères de la société souvent pratiquée, et surtout étendue dans la mesure où aux quatre épouses qu'autorise la loi s'ajoutait le nombre parfois tout à fait stupéfiant de concubines. Je dirais que ça c'est la première image qu'on peut avoir de la condition féminine, c'est-à-dire de maisons où les femmes sont extrêmement nombreuses autour du maître.
Mais on est loin de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Les femmes, en fait, vous le montrez bien, peuvent avoir un rôle important dans l'ordre intellectuel et même dans l'ordre politique.
Elles ont un rôle important d'abord parce qu'on est dans une société où le divorce existe, où il est même beaucoup pratiqué, parfois également à l'initiative des femmes si le contrat de mariage qu'elles ont signé le permet, et certains contrats le permettaient tout à fait. On remarque également que au sein de cette aristocratie mamelouk, les femmes avaient une place importante dans la transmission du patrimoine, bien plus importante que ne le prévoyait en principe la loi islamique, dont on sait qu'elle prévoit en particulier que les filles n'héritent que de la moitié de la part héritée par leurs frères. Il n'en était rien au sein de l'aristocratie mamelouk où les filles héritaient de la même part que leurs frères du patrimoine de leur père.
On est loin de la Tunisie contemporaine où vous avez vu que c'est un débat actuel de savoir si on en finit avec la règle qui veut qu'aujourd'hui une fille ne touche que la moitié de l'héritage de son frère.
La grande difficulté avec cette règle, c'est qu'elle est inscrite dans le texte coranique. Et donc, elle est très difficile à remettre en question, puisque pour la grande majorité des musulmans aujourd'hui, le Coran est parole divine. Et le Coran précise, avec un grand luxe de détails, les conditions de la transmission du patrimoine.
Mais alors, les mamelouks ?
Alors les mamelouks trichaient en utilisant une disposition de la loi islamique qui est celle du waqf. Le waqf qui est une forme de fondation pieuse, ce qu'on appellerait aujourd'hui une trust foundation en droit anglo-saxon, qui leur permettait de placer leur patrimoine sous la protection de la loi et d'attribuer les revenus de ce patrimoine, au fond, à qui ils souhaitaient, y compris d'ailleurs à leurs propres affranchis. Les mamelouks des mamelouks pouvaient être leur véritable postérité et hériter des revenus de la fondation de leur ancien maître.
Il n'y a pas seulement l'architecture qui a laissé trace, il y a l'ensemble de l'artisanat, du métal, du verre, du textile. On est bien au-dessus en termes de civilisation de l'Occident médiéval du temps.
Disons qu'il y a une concentration de richesses dans quelques mains et surtout dans quelques lieux, les villes, qui donnent à voir effectivement une civilisation matérielle extrêmement fastueuse. Et on peut voir aujourd'hui dans les grands musées du monde, et en particulier au musée du Louvre, au département des arts de l'islam, effectivement le luxe prodigieux des objets en métal ou en verre fabriqués pour l'usage des officiers mamelouks et qui souvent portaient leur blason, puisque là aussi c'est une des grandes originalités de ces mamelouks, c'est qu'ils avaient un blason personnel.
Vous en donnez une reproduction dans votre livre.
Oui, alors plusieurs blasons. Le plus célèbre, vous parliez tout à l'heure de Baybars, le véritable père fondateur du régime mamelouk qui règne entre 1260 et 1277. Baybars avait un blason animal, un blason personnel sous la forme d'un lion passant, donc d'un lion vu de profil, la tête tournée vers celui qui regarde le blason. Et ce blason, on l'explique généralement par la signification même du nom Baybars, qui signifie en turc le chef panthère. Le chef panthère, et d'ailleurs Bars, la panthère en turc, a donné le prénom russe Boris, évidemment très familier.
J'évoque le Moyen-Âge occidental. Quelle comparaison pourriez-vous faire ? La féodalité est beaucoup plus enracinée dans la campagne, alors que le monde des mamelouks est d'abord urbain, non ?
C'est un monde fondamentalement urbain. Les mamelouks tirent leurs revenus des campagnes, en particulier des campagnes égyptiennes, mais ils n'y vont pratiquement jamais. Surtout, ils résident en ville. C'est la grande différence avec la féodalité occidentale qui s'enracine dans des châteaux, dans les campagnes, au plus près des villages, au plus près des revenus agricoles. Les mamelouks s'appuyaient quant à eux sur une administration administration, et en particulier une administration fiscale extrêmement élaborée, qui leur permettait, tout en résidant au Caire, à Damas, à Alep ou encore à Jérusalem, de percevoir les revenus de villages parfois situés à quelques centaines de kilomètres de leur affectation.
La ville, la campagne, cela a forcément des conséquences sur la centralité du pouvoir ou sur sa dispersion, toujours d'un point de vue comparatif.
C'est un pouvoir extrêmement centralisé, et en particulier centralisé au Caire. D'ailleurs, on est beaucoup mieux renseigné sur ce qui se passe au Caire à cette époque que dans les villes de province, en particulier de la province syrienne. Le pouvoir est concentré au Caire, quitte à ce que, lorsque les circonstances l'exigent, le sultan du Caire envoie un corps expéditionnaire, soit mater une rébellion en Haute-Égypte, soit affronter de nouveaux ennemis sur les frontières de la Syrie.
Si on voulait faire un rapprochement avec l'Occident, c'est peut-être du côté des villes italiennes qu'on trouverait des ressemblances plus marquées.
Oui, tout à fait. Des villes italiennes d'avant l'avènement des régimes communaux, ces cités italiennes encore dominées par des aristocraties urbaines qui étaient établies en ville et avaient en ville de véritables palais forteresses, des palais fortifiés. C'est sans doute la meilleure comparaison que l'on peut faire avec les grands palais urbains des émirs mamelouks, qui étaient de véritables châteaux dans la ville, d'ailleurs dans lesquels ils se retranchaient à l'occasion lorsque des affrontements se dessinaient entre factions mamelouk dans la capitale égyptienne.
Vous nous dites, Julien Loiseau, que le régime des mamelouks en Égypte a duré à peu près 2 siècles et demi jusqu'au début du XVIe siècle. Quels sont les ressorts de son déclin ?
Le déclin du régime est lié d'abord à un événement qui frappe l'ensemble du vieux monde, c'est la peste au milieu du XIVe siècle, qui a des conséquences à très long terme et qui en particulier amoindrit considérablement les ressources fiscales de ce régime.
Parfois un tiers de la population disparaît.
Oui, on est très bien documenté pour cela, pour l'histoire occidentale et en particulier pour l'histoire anglaise, et cette proportion d'environ un tiers de la population, au moins dans les villes, s'applique sans doute au fléau de la peste en Orient. Ce déclin des ressources fiscales du régime mamelouk entraîne au XVe siècle un certain nombre de réorganisations et un alourdissement de la pression fiscale sur une population rurale amoindrie par la peste, qui rend le régime profondément impopulaire et qui accroît également la violence du régime pour se procurer des ressources qui font de plus en plus défaut. Et cette impopularité du régime aurait pu néanmoins ne pas lui être fatale s'il n'avait surgi à ses frontières une menace très surprenante au demeurant pour les Mamelouks, qui est la menace ottomane.
Que se passe-t-il ?
Alors les Ottomans, dont on connaît surtout en Europe la prise de Constantinople en 1453, dans la seconde moitié du XVe siècle, font porter leur effort vers le sud-est de l'Anatolie, affrontent d'ailleurs les Mamelouks à la fin du XVe siècle, perdent une première guerre contre les Mamelouks dans les années 1480, et puis en 1516 se présentent brutalement aux frontières du sultanat mamelouk, affrontent l'armée mamelouk en présence du sultan lui-même, le sultan Raouri, qui est le premier sultan et le dernier à mourir sur le champ de bataille, à plus de 70 ans, sur son cheval, en 1516 face aux Ottomans. Une défaite que personne n'avait vu venir, sans doute pas même les Ottomans, et qui leur ouvre la conquête de la Syrie, puis quelques mois plus tard, la conquête de l'Égypte.
Qui va être gouverné désormais par qui ?
Qui va être désormais gouverné à la fois par un représentant de la Sublime Porte, un représentant du sultan ottoman d'Istanbul, et puis par des chefs locaux, chefs du régiment des janissaires établi au Caire, chefs également des maisons mamelouks, parce que le principe du recrutement d'esclaves soldats, le principe du recrutement des mamelouks, se maintient sous la domination ottomane jusqu'à l'époque de l'expédition française, de l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798.
Donc l'origine du mot mamelouk, qui est la chose possédée, reprend de fait plus de véracité à l'époque. Vous évoquez l'arrivée de Bonaparte, effectivement, à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Nous avons appris dans nos manuels qu'il avait rencontré des mamelouks, puisqu'il avait fini par avoir un mamelouk favori, Roustan, qui était près de lui tout le temps et qui lui a manifesté une fidélité digne de toutes les admirations. Alors donc, ils existent encore à ce moment-là.
Non seulement ils existent encore, mais ils ont même repris une vigueur nouvelle à partir du milieu du XVIIIe siècle, où les émirs mamelouks, qui désormais sont plutôt originaires de Géorgie et d'Arménie plutôt que du Caucase du Nord, largement islamisés, ces émirs mamelouks sont même devenus pratiquement indépendants du sultan ottoman d'Istanbul. Et ce sont eux les vrais maîtres de l'Égypte quand Bonaparte débarque à Alexandrie en juillet 1798.
Et dans une fameuse proclamation, le futur premier consul, le général en chef des troupes françaises, vient interpeller les Égyptiens et en particulier les Mamelouks. Écoutez les débuts de cette proclamation et puis peut-être accepterez-vous de la compléter tout à l'heure pour ce qui touche plus directement aux Mamelouks. C'est un extrait du film « L'aigle et le sphinx » de Jacques Barsac et Mahmoud Hussein, un film de 1998.
Au nom du Dieu clément et miséricordieux, de la part de la nation française, fondée sur la liberté et l'égalité, Bonaparte, le grand général, chef de l'armée française, fait savoir à tous les habitants de l'Égypte. Tous les hommes seront égaux devant Dieu. Tous les Égyptiens pourront occuper les plus hautes positions et obtenir les grades les plus élevés. Les plus sages, les plus vertueux, les plus instruits gouverneront et le peuple sera heureux. Heureux les habitants de l'Égypte qui se joindront à nous sans retard. Ils prospéreront dans leur fortune et dans leur rang. Heureux encore ceux qui resteront dans leur maison et seront neutres. Ceux-ci, quand ils nous connaîtront, s'empresseront de s'unir avec nous de tout cœur. Même malheur à ceux qui combattront contre nous. Il n'y aura pas de porte de salut pour eux. Ils périront et leurs traces disparaîtront.
Plus tard, dans cette proclamation fameuse, Bonaparte parle des Mamelouks.
Oui, il prononce les mots suivants, qui étaient traduits en arabe pour la population d'Alexandrie. « Peuple de l'Égypte, depuis trop longtemps, ce ramassis d'esclaves, achetés dans le Caucase et la Géorgie, tyrannise la plus belle partie du monde. Mais Dieu, de qui dépend tout, a ordonné que leur empire finit. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. La sagesse, les talents, les vertus mettent seuls de la différence entre eux. Or, quelle sagesse, quel talent, quelle vertu distingue les Mamelouks pour qu'ils aient exclusivement tout ce qui rend la vie aimable et douce? Y a-t-il une belle terre? Elle appartient aux Mamelouks. Y a-t-il une belle esclave, un beau cheval, une belle maison? Cela appartient aux Mamelouks. Si l'Égypte est leur ferme, dit Bonaparte, si l'Égypte est leur ferme, qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait. »
Comment les Mamelouks ont-ils réagi? Tristement, sauf Roustan.
Oui, parce que les Mamelouks ont eu à affronter le feu des armées françaises dirigées par Bonaparte et très rapidement hein, ils sont défaits et doivent abandonner le Caire. Ce n'est que dans les mois qui suivent que Bonaparte décide à prendre à son service, au service des officiers de l'armée, un certain nombre de jeunes Mamelouks encore en formation, dont effectivement le fameux Roustan dont vous rappeliez la mémoire, Mamelouks qui vont suivre l'armée française dans son retour en France en 1801
et qui constitueront un corps d'élite tout au long des batailles napoléoniennes.
Tout à fait. Très exposé d'ailleurs à partir d'Austerlitz et qu'on retrouve jusque dans les dernières heures de l'Empire napoléonien. Certains avaient suivi même l'empereur dans son exil sur l'île d'Elbe. Ils participent aux 100 jours. Les derniers, après la défaite de Napoléon, retournent s'installer à Marseille.
Ils avaient bien fait de quitter l'Égypte puisque en 1811, Mehmet Ali, qui était d'origine albanaise, qui était pacha d'Égypte, pour le système ottoman, en massacre 400, toujours du sang qui coule.
Oui, c'est un massacre qui est resté célèbre dans l'histoire égyptienne et qui met effectivement un terme définitif à l'aristocratie mamelouk en Égypte en 1811. Mais Mehmet Ali, qui est à tout prendre le véritable fondateur de l'État égyptien moderne, dont il modernise les structures, dont il modernise également l'industrie, l'agriculture, c'est surtout le fondateur de l'armée égyptienne moderne.
Et les Mamelouks sont désormais renvoyés au passé de l'Égypte. Je pense qu'il est temps maintenant, Julien Loiseau, d'en venir à cette comparaison, à ce rapprochement que propose dans son livre récent Jean-Pierre Filliu. Et vous allez nous dire s'il vous paraît légitime de faire une concordance entre ce temps des Mamelouks et le temps d'aujourd'hui. Pour ouvrir cet ultime moment de notre conversation, écoutez donc ce reportage d'Anne-Charlotte Inet de Valérie Lucas sur le général Al-Sissi qui vient, comme nous savons, pour la seconde fois d'être élu avec un pourcentage faramineux, 97% des votants, seulement 41% des votes. Mais enfin, qui évidemment, c'est une parodie de démocratie. Parmi d'autres reportages, celui-ci me paraît bien ramasser les choses. Nous remontons au 19 août 2013, après la première élection de Sissi, qui va prendre la place avec quelle brutalité des frères musulmans et de son prédécesseur Morsi.
C'est le ministre de la Défense choisi par les frères musulmans. Ce jour-là, le général Al-Sissi est promu maréchal et serre la main de Mohamed Morsi, son président. 12 mois plus tard, c'est lui qui réprime dans le sang les manifestations de soutien à Morsi, destitué et emprisonné. Dans la rue, les anti-Morsi ne s'y sont pas trompés. Les portraits du maréchal Al-Sissi côtoient ceux du père de la nation égyptienne, le colonel Nasser. Pour eux, c'est un héros. Les frères musulmans croyaient avoir un allié. Ils découvrent un adversaire redoutable qui se pose en protecteur du peuple.
Sharaf,
je vous jure devant Dieu que l'honneur de protéger la volonté et la liberté du peuple est pour moi personnellement bien plus important que de gouverner l'Égypte.
Comment a-t-il réussi ce tour de force? La confrérie des frères musulmans avait vu dans cet homme très croyant, dont l'épouse porterait le voile, un allié de choix capable de leur ouvrir les portes de l'armée. C'était un mauvais calcul.
Le général Sissi s'est avéré un pur produit de l'armée qui défendait la vision et les intérêts de l'armée et non pas de la confrérie. La confrérie voulait faire de l'Égypte un califat et imposer la charia, alors que l'armée voudrait un régime nationaliste et non pas islamiste.
Ce fils de commerçant du Caire qui a étudié en Grande-Bretagne et aux États-Unis incarne donc aujourd'hui ce nationalisme auquel semble adhérer une majorité d'Égyptiens.
Nous avons entendu la voix d'Antoine Basbous, qui est un politologue franco-libanais, au centre de cette archive. Julien Loiseau, c'est du darwinisme encore qui a abouti à ce que Sissi, par Abdel Fattah al-Sissi, ait émergé comme le chef de l'Égypte contemporaine, à peu près comme les mamelouks antérieurs. Il n'a pas été esclave lui-même.
Non, alors c'est vrai que la comparaison proposée par Jean-Pierre Filu entre les officiers des armées égyptiennes et syriennes en particulier, qui dominent leurs pays respectifs depuis maintenant plus d'un demi-siècle, avec cette comparaison avec les mamelouks, elle est très suggestive parce qu'elle permet de mettre en évidence le caractère non héréditaire de ces pouvoirs, bien que Hosni Moubarak ait tenté en son temps de transmettre son pouvoir à ses fils.
Mais ça n'a pas marché justement.
Et ça n'a pas marché. Précisément parce que l'armée était très réticente à une transmission héréditaire, tout simplement parce que, voilà, en Égypte, l'armée conserve la haute main sur le pouvoir et ses privilèges, et l'armée collectivement, c'est-à-dire que c'est le collectif des grands officiers de l'armée qui contrôle ce qu'on appelle parfois l'état profond en Égypte.
Même si Madame Moubarak, qui était très influente, avait évidemment souhaité vivement que l'un de ses fils puisse succéder à son mari.
Vous avez entièrement raison, mais c'est vrai que l'armée égyptienne était très réticente à ce type de succession. Au fond, Al-Sissi s'inscrit dans une lignée de grands officiers, à commencer par Gamal Abdel Nasser.
Nasser qui avait écarté le général Naguib, qui un certain temps avait été au devant de la scène. Mais comme on dirait au Japon, il y avait le shogun derrière, qui avait le véritable pouvoir par rapport à l'empereur. Et puis très vite, Nasser a remplacé Naguib.
Tout à fait. Alors, Jean-Pierre Filu file la comparaison en insistant sur la relation extrêmement formelle qu'entretiennent ces officiers avec la source théorique de leur légitimité. Aujourd'hui, c'est le peuple, et nous dit Jean-Pierre Filu, en comparant avec les mamelouks, au temps des mamelouks, c'était le califat, c'est-à-dire une sorte d'instance de légitimité très lointaine, très théorique, avec laquelle les officiers n'entretiennent qu'un rapport très éloigné, au fond très théorique.
Jean-Pierre Filiou insiste aussi sur le caractère exogène, par exemple dans le cas de la Syrie actuelle, de la dynastie alaouite des Assad par rapport à l'ensemble du peuple syrien qui est sunnite.
Alors effectivement, c'est là aussi où la comparaison fonctionne, c'est que de même que les mamelouks étaient étrangers très largement à leur sujet par leur origine ethnique et leur langue, pas par leur religion, il est vrai que la société alaouite, ce milieu alaouite qui domine la Syrie depuis les années 60, se distingue de la majorité de la population syrienne qui, elle, est arabe et sunnite, à la fois justement cette dimension communautaire et puis par sa foi chiite, tout à fait singulier.
Oui, alors que les alaouites sont chiites.
Alors que les alaouites sont chiites, au contraire de la majorité de la population syrienne. En revanche, appliquer tout particulièrement à l'Égypte, cette comparaison pose néanmoins un certain nombre de problèmes, en tout cas présente un certain nombre de limites.
Vous ne me surprenez pas, parce que parler de concordance, c'est toujours aussi parler de discordance.
Tout à fait. Et dans le cas présent, je pense que ce qui distingue le plus clairement les officiers de l'armée égyptienne d'aujourd'hui et leurs prestigieux prédécesseurs des 13e, 15e siècles, c'est précisément leur origine égyptienne. L'armée égyptienne d'aujourd'hui est une armée populaire fondée sur la conscription. Elle l'est depuis le temps de Mehmet Ali, dont nous évoquions tout à l'heure l'acte fondateur qui avait été l'exécution des Mamelouks en 1811. C'est une armée égyptienne et qui pense sa domination comme une revanche, précisément, sur ces siècles pendant lesquels l'Égypte a été gouvernée par des étrangers.
Avec souvent une origine sociale de petite bourgeoisie ou même de paysannerie.
Ou même de paysannerie. C'est vraiment l'Égypte profonde qui a accédé au pouvoir à travers l'avènement du régime militaire en Égypte.
Et là, on est loin des Mamelouks.
Et là, on est vraiment à l'opposé du spectre des Mamelouks qui précisément étaient recrutés parce qu'ils étaient étrangers. Dans le cas des Mamelouks, on retient très souvent leur origine servile, leur passé d'esclave. Mais au fond, l'esclavage n'était qu'un moyen de faire venir au centre des pays d'islam des étrangers auxquels on prêtait des vertus militaires incomparables, les seuls à même de défendre la civilisation islamique contre ses ennemis de l'extérieur.
Les relations avec la religion sont également différentes.
Alors tout à fait, dans la mesure où les Mamelouks étaient des néo-convertis à l'islam et souvent d'ailleurs de farouches défenseurs de cette religion qu'ils venaient tout juste de découvrir.
C'est le fait souvent des convertis.
C'est souvent le fait des convertis. Alors même que dans le cas des régimes autoritaires arabes des dernières décennies au Proche-Orient, le rapport à la religion est un rapport plus distancié, beaucoup plus instrumentalisant d'ailleurs de la religion. Gamal Abdel Nasser avait avec la célèbre Mosquée El-Azhar, qui est la principale autorité de l'islam en Égypte, des rapports très compliqués et très largement des rapports d'instrumentalisation.
Oui, en somme, vous nous dites que il y a toujours eu du despotisme et que sa nature a changé. Avoir une vision un peu immobile, ce n'est d'ailleurs pas la pensée de Jean-Pierre Filiou, qui n'est pas aussi simpliste, mais le danger pourrait être de parler de permanence, un peu comme Alain Perfit parlait de l'empire immobile à propos de la Chine, ce qui avait toujours surpris les spécialistes.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut finalement essayer de ne éviter de voir dans les formes contemporaines de l'autoritarisme dans le monde arabe simplement un héritage d'une très longue histoire du despotisme. En particulier, il y a ce renversement fondamental qui intervient au XIXe siècle, qui est celui que désormais ces régimes se fondent sur la population locale et sur la conscription de la paysannerie. En particulier dans le cas égyptien, dans le cas syrien est peut-être plus proche de celui des Mamelouks que le cas égyptien.
Pourquoi ?
Précisément parce que les Alaouites entretiennent un rapport compliqué à la majorité des habitants du pays qu'ils gouvernent.
Avant même qu'ils les massacrent.
Avant même qu'ils ne les massacrent. Et très clairement, aujourd'hui, on voit très bien que le régime s'est redéfini selon les lignes de la communauté alaouite. Il défend fondamentalement les intérêts et la survie de la communauté alaouite.
La manière dont l'armée égyptienne a chassé du pouvoir Morsi et les frères musulmans, peut-être aussi la marque d'une différence. Les Mamelouks les ménageaient bien davantage.
Alors, c'est vrai que les Mamelouks avaient un rapport de clientélisme extrêmement fort avec les hommes de religion, avec ceux qu'on appelait les oulémas, les hommes de savoir et de religion, rapport clientéliste en ce sens que l'essentiel des revenus des hommes de religion provenait précisément des mosquées et des institutions pieuses créées par les officiers Mamelouks, dont ils étaient à la fois les salariés et les obligés. En revanche, dans la brutalité politique de la répression, il y a là effectivement sans doute une constante de très longue durée. Le peu de cas fait non seulement de la liberté d'opinion, mais tout simplement de l'intégrité des sujets.
Eh bien, Julien Loiseau, merci d'avoir éclairé dans la longue durée ces Mamelouks et leur prégnance possible dans notre vie contemporaine. Votre livre s'appelle précisément Les Mamelouks, 13e, 16e siècle, paru dans la prestigieuse collection de l'Univers historique au Seuil en 2014. Vous avez fait fond aussi sur le livre de David Ayalon, Le phénomène Mamelouk dans l'Orient islamique, paru aux presses universitaires de France en 1996. Ce livre est important ?
Oui, David Ayalon, qui était professeur d'histoire à l'Université hébraïque à Jérusalem, est véritablement le père fondateur des études sur les Mamelouks.
Qu'est-ce qu'il a apporté comme nouveauté dans le regard porté ?
Alors c'est lui qui, le premier, décrit comment fonctionne cette société militaire, comment elle se recrute, et en particulier les liens de solidarité qui unissaient les Mamelouks à la fois à leur maître et entre Mamelouks, entre frères d'armes.
Le côté familial, sur quoi vous insistez beaucoup vous-même dans vos travaux?
Tout à fait, cette famille Mamelouk dont les solidarités ont été remarquablement mises en lumière par David Ayalon à une époque où, il faut le rappeler, faire de la recherche sur ce passé islamique était beaucoup plus complexe à une époque où pratiquement toutes les sources étaient encore manuscrites et difficiles d'accès.
André Clos a publié un livre qui s'appelle « L'Égypte des Mamelouks » qui est commodément accessible dans la collection Tempus chez Perrin. Le sous-titre, c'est « L'Empire des esclaves ». Après vous avoir écouté Julien Loiseau, je n'ai pas le sentiment que ce sous-titre soit indu ou malvenu.
Non, ce sont effectivement ces esclaves-soldats qui ont véritablement dominé l'Égypte de leur temps, au point de la transformer en profondeur, au point de laisser leur empreinte sur leur temps. Rappelons que leur époque est précisément appelée l'époque mamelouk, tant les mamelouks ont laissé dans la culture de leur époque, dans l'architecture, dans le costume, dans les arts, une empreinte indélébile, à tel point même que lorsqu'en Égypte, au XIXe siècle, on cherche à inventer une architecture nationale, on se tourne tout naturellement vers l'architecture des mamelouks.
Empire des esclaves, dit André Clos, ce sont des esclaves blancs en général et non pas en provenance du sud.
Oui, dans la longue histoire de l'esclavage en terre d'islam, les esclaves noirs étaient très rarement affectés à des fonctions militaires, même s'il y a quelques exceptions. En Égypte, l'Égypte qui au Xe siècle a été pendant quelques années gouverné par un eunuque d'origine nubienne qui avait fait carrière dans l'armée. Mais les Mamelouks sont en effet des esclaves blancs par opposition aux esclaves noirs dans une culture politique qui attribue aux races des fonctions, des vertus et donc des métiers spécifiques en fonction de l'origine des esclaves.
Le livre de Jean-Pierre Filliu qui nous a servi à faire cette comparaison a esquissé ce rapprochement entre le XIIIe siècle, XIVe siècle et nos jours s'appelle « Généraux, gangsters et djihadistes » avec le sous-titre « Histoire de la contre-révolution arabe ». C'est un livre qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Et puis je rends hommage au livre que vous avez rédigé à quatre, un livre important, avec Catel Berthelot, Yann Potin et Vincent Lemire, qui s'intitule « Jérusalem, histoire d'une ville-monde ». Un livre qui a été salué par le prix Pierre Laffut en 2017, paru chez Flammarion, et qui est en passe d'être traduit dans plusieurs langues.
Oui, c'est un livre qui est déjà traduit en italien, qu'il sera en anglais, et nous espérons surtout promouvoir une traduction à la fois en arabe et en hébreu sur un sujet éminemment central dans ces deux cultures.
Je précise aussi, nous restons dans la même région, que France Culture est partenaire de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe, l'IMA, qui s'intitule « L'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle », qui se tient depuis le 28 mars et qui durera jusqu'au 5 août 2018. J'ai mémoire que nous avions, naguère, consacré toute une émission à l'histoire passionnante du canal de Suez. Vous trouverez, vous le savez, une bibliographie complète sur notre site avec les références et documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission en la conservant près de vous pour une très longue durée. Samedi prochain, nous parlerons de l'europhobie, toujours vivante. Une longue passion qui remonte en fait au XIXe siècle, depuis que Victor Hugo préconisait les États-Unis d'Europe. Bernard Brunto, qui vient d'écrire un livre sur ce sujet, sera mon invité. Et lundi prochain, vous retrouverez à 9h Emmanuel Laurentin, qui consacrera ses émissions de la Fabrique de l'Histoire toute la semaine à l'histoire des odeurs et des parfums. Même à la radio, on ne se contente pas de l'oreille. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec, je les remercie, à la prise de son Pierre Fossillon, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Isabelle Fort-Rendu. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.